Ayez foi en Dieu, dit le Christ, et je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il est évident que le sens littéral d'une telle proposition est absurde. On n'a jamais vu personne, même parmi les plus grands saints, transporter les montagnes, et Jésus lui-même, qui devait être l'image même de la foi puissante, n'a transporté aucune montagne matériellement. Et donc, il est évident que c'est une image, une allégorie. Alors, dans le sens commun, on l'entend d'habitude pour dire que avoir la foi permet d'accomplir de très grandes choses. Bon, admettons. Et il est vrai que des hommes de foi, des gens de foi, ont accompli des choses extraordinaires dans ce monde et ont déplacé des montagnes, peut-être pas des montagnes de cailloux, mais ont réussi à opérer dans ce monde des déplacements extraordinaires qui ont transformé le monde. Mais la question, c'est d'abord, de quelle foi parle-t-on ? Quelle est cette foi qui transporte les montagnes ? Sur ce point, nous sommes un petit peu mal lotis, parce que depuis je ne sais quand, peut-être une tendance un peu romantique, nous avons l'habitude bien souvent d'entendre parfois quelque chose qui est de l'ordre du sentiment, le sentiment religieux, comme si la foi était l'émotion religieuse, le sentiment de la présence de Dieu. Or, je crois que ce n'est absolument pas de cela dont il est question ici, et ce n'est d'ailleurs absolument pas de cela dont il est question dans la Bible. Le sentiment religieux, c'est quelque chose que l'on a plus ou moins, qui ne dépend pas de nous, qui dépend un peu de notre culture, de notre éducation, de notre nature aussi. Certains ont un sentiment religieux très fort, d'autres pratiquement pas, mais je pense que la question de la foi ne se joue pas là. La question de la foi, c'est la question de l'adhésion, comme dirait Thomas d'Aquin, de l'adhésion de l'intelligence à une vérité. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que dans la langue de la Bible, le mot « foi » aman vient du même mot que le mot « amen », qui justement est utilisé dans notre texte. « En vérité, je vous le dis. » « Amen », ça veut dire « en vérité ». Et « aman », c'est « la vérité ». Et donc, voyez-vous, la foi n'a rien à voir avec le sentiment, la foi a quelque chose à voir avec la vérité. Mais là encore, contresens impossible, c'est qu'il y a parfois été dit que la foi, c'était l'adhésion dogmatique ou doctrinale. On parle de la foi protestante, de la foi catholique ou de la foi musulmane pour parler de l'ensemble des articles de dogme auxquels les tenants d'une religion ou d'une autre devraient croire. Mais là encore, il ne s'agit pas de cela. Et il y a de très nombreux exemples, même dans le Nouveau Testament, où Jésus dit de quelqu'un qu'il a une très grande foi, alors qu'apparemment il n'a suivi aucun catéchisme et qu'il n'a validé aucun des articles normaux de la dogmatique de son temps. Et donc il ne s'agit pas non plus d'une croyance doctrinale ou dogmatique. La foi qui transporte les montagnes n'a rien à voir, je dirais, avec l'intellect, mais c'est de l'ordre de l'adhésion personnelle, c'est-à-dire de quelque chose dans lequel on croit. La foi, c'est une conviction, une certitude, c'est que de se dire « il y a là quelque chose, je crois que c'est fondamentalement vrai », mais non pas dans le sens logique, mais dans le sens d'une vérité humaine. Et ainsi, on peut croire dans l'amour, on peut croire dans le pardon, on peut croire dans la fraternité, on peut croire qu'il est possible à chacun d'avoir une vie nouvelle, on croit que Dieu peut renouveler notre existence, et c'est là la foi, une conviction, une force intérieure qui fait que l'on s'attache fondamentalement à quelque chose que l'on croit vrai. Peut-être est-ce aussi de l'ordre de l'idéal. Et dans ce sens, certainement que la foi est une force. Parce que la foi, c'est un élan qui pousse à faire des choses extraordinaires. Et je pense que pour faire des choses extraordinaires, il faut être tiré vers l'avant. Il faut avoir une conviction qui nous fait regarder devant et se dire « ça c'est possible, ça je vais y arriver ». C'est dans ce sens qu'il y a une vérité et il faut avancer dans cette direction et je vais tout mettre en œuvre pour que ma vie opère une sorte de travail, de révolution, de guerre spirituelle, je dirais, pour avancer dans ce sens qui est ce en quoi je crois. Et donc oui, la foi dans ce sens est une force, un élan qui pousse à faire des choses qui aurait pu sembler impossible aux autres, un élan qui pousse à faire des très grandes choses. Autrement dit, on pourrait le dire d'une façon plus courante en disant, pour pouvoir faire des grandes choses qui semblent impossibles, il faut y croire. Eh bien, je crois que, justement, dans la foi, il y a quelque chose comme cela. La foi, peut-être, est-ce dépasser ces affirmations a priori défaitistes qui sont du genre « ça n'est pas possible, on n'y arrivera jamais, on a déjà essayé, rien ne changera jamais ». Ceux qui ont réalisé des grandes choses dans ce monde sont des gens qui ont cru, justement, et qui ont cru par-delà l'impossible, qui ont cru bien que cela puisse sembler absurde. Il y a une citation que je connaissais, que j'aime bien, j'ai essayé de retrouver qui l'avait dit. C'est quelqu'un qui a dit « c'était, je ne savais pas que c'était impossible et c'est pour cela que je l'ai fait ». Là, l'attribution de cette citation est assez complexe parce qu'en fait, tout le monde n'est pas d'accord. Il semblerait que ce soit Mark Twain qui l'ait dit dans sa lutte contre le racisme. Et quand on lui a dit « mais enfin, vous avez fait quelque chose qui est incroyable, impossible, inimaginable dans la société où vous étiez », et il a dit « je ne savais pas que c'était impossible et c'est pourquoi je l'ai fait ». Oui, je crois qu'il faut une dose de folie pour agir et pour faire des projets dans ce monde. Et je crois qu'il y a dans la foi, et même dans la foi du chrétien, quelque chose qui nous sort du bien sage, quelque chose qui nous sort, je dirais, des tenants et des aboutissants logiques du monde d'ici-bas et d'aujourd'hui. Il y a dans la foi une forme de folie, justement. Ça a été prêché bien fermement par Paul, qui dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Eh bien, je pense qu'il y a effectivement dans la foi quelque chose de l'ordre de la folie. Nietzsche disait que la foi est un saut qualitatif dans l'absurde. J'aime cette expression. Non pas qu'il faudrait l'entendre dans le sens que croire, c'est croire bêtement des choses qui sont absurdes, mais la foi, c'est justement sortir de ces petites convictions, d'une petite morale bourgeoise qui fait que les choses sont comme elles sont et que rien ne doit bouger. Il y a dans la foi une folie extraordinaire qui fait sortir de là où l'on est pour se propulser dans le monde de l'extraordinaire. Et il y a, je pense, dans cette foi de l'Évangile, justement quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire. Il y a dans la prédication du Christ quelque chose de, je dirais, d'ultime, d'absolu, quelque chose d'utopique même, quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui est tellement trop idéal que quand on le lit, on a tendance à sourire en disant « oui, enfin, tout ça, c'est de l'idéal, c'est utopique, c'est pas possible ». Eh bien, si. C'est peut-être justement par cette utopie que l'Évangile nous sauve, parce qu'il nous propulse dans un autre monde et il nous a fait attirer par le royaume de Dieu, ce royaume de Dieu qui est folie pour les hommes et qui n'a rien à voir avec notre royaume. Et il nous dit « vous pouvez y croire ». Et il y a là quelque chose de possible. Par-delà l'impossible terrestre et humain, par-delà ce que tout le monde dit, il y a du possible. La foi qui est une ouverture des possibles, la foi qui est une rupture par rapport aux déterminations, la foi qui nous invite à rompre aussi par rapport à la répétition du même et par rapport à la recopie jour après jour de ce qu'était la veille ou par rapport au fait de reproduire sur nos enfants ce que nous avons vécu nous-mêmes. On peut sortir du quotidien, on peut changer, on peut être un être neuf, on peut avoir une vie nouvelle, on peut réaliser de grandes choses. C'est ça une grande part de la foi de l'Évangile. C'est la foi dans la résurrection. La résurrection, c'est pas que les cadavres se remettent à vivre, c'est de dire il y a de la vie possible même quand tous les autres disent ce n'est que la mort. C'est la résurrection, le meilleur exemple, c'est celui de la résurrection de Lazare. Lazare est dans son tombeau, les autres ont fermé la pierre, et disent « il est mort, et en plus il sent mauvais ». Et Jésus dit « non, c'est pas comme ça ». Lazare sort, et Lazare, malgré tout ce que disaient les autres, tous les autres qui le considéraient comme mort et qu'il avait déjà enterré, Lazare sort vivant. Ça, c'est la foi. Croire que c'est possible, et croire qu'il y a de la vie même où les autres ne voient que de la mort, c'est croire qu'il y a de la lumière, même quand les autres ne voient que ténèbres, c'est croire qu'il y a du possible, là où tous les autres disent qu'il y a de l'impossible. Et peut-être également, d'ailleurs, dans ce sens, dans « il faut-il comprendre ce « ayez foi en Dieu », non seulement dans l'idée de croire dans tout ce que Dieu nous annonce, je dirais, mais aussi une dimension de confiance. En effet, il y a dans la foi cette dimension de confiance. Et peut-être y a-t-il là également un appel à mettre sa confiance en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu, ce n'est pas forcément croire que Dieu fera tout à notre place. Et mettre sa confiance en Dieu, ce n'est pas attendre tout et n'importe quoi de Dieu. Il y a une intelligence de la foi qui fait que l'on sait quand même, je dirais, ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. L'Évangile n'est pas qu'une prédication de l'absurde. L'Évangile ne dit pas simplement « tout est possible et n'importe quoi et la folie est sagesse ». Mais c'est de dire il y a, dans cette direction qu'indique l'Évangile, qui est quand même très claire et très précise, il y a quelque chose qui est la sagesse fondamentale de Dieu et dans lequel on peut avoir confiance. Mais mettre sa confiance en Dieu, c'est aussi retirer une partie de la confiance que l'on met en soi-même pour la mettre ailleurs, pour la mettre en Dieu, pour la mettre dans celui qui nous dépasse. Et je trouve qu'il y a là aussi une bonne nouvelle qui peut-être justement nous fait pouvoir espérer ou croire dans l'impossible. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, alors je ne dois mettre ma confiance qu'en moi-même. Et dans ce cas, c'est décourageant. Parce que moi-même, je sais que je suis peu puissant, je sais que je suis faible, je sais que je suis peu capable de faire de grandes choses. Et donc si je suis seul et que je ne dois compter sur moi-même, malheureux que je suis, je n'ai aucun espoir. Mais mettre sa confiance en Dieu, c'est justement sortir de soi-même et croire que dans cet enchaînement des causes et des conséquences du monde, tout ne dépend pas de moi et qu'il y a un possible qui me dépasse et que je ne suis pas simplement livré à moi-même en étant le seul responsable de ma propre vie, mais je peux m'abandonner dans les bras du Père, dirais-je, ou m'abandonner dans une puissance qui est au-delà de moi-même. Et j'aime cette idée-là. En un sens, c'est tout à fait opposé au message contemporain et moderne, où l'on enseigne aux gens de se prendre en charge, d'être responsables d'eux-mêmes, et où on leur dit « vous ne devez compter que sur vous-même et sur vos propres forces ». Mais voilà, ayez foi en Dieu, ayez confiance que, par-delà votre faiblesse, il y a quelque chose qui peut vous soutenir, qui peut vous porter, qui peut vous transporter, qui peut vous transformer, et tout n'est pas simplement dépendant de vos propres forces misérables et débiles. Alors ça, c'est essentiel, parce qu'il est vrai que si l'on croit que les choses ne dépendent que de nous, c'est très, très angoissant, je dirais, dans les choses difficiles. Mais la foi, d'une certaine manière, peut-être, nous libère, justement, parce qu'elle nous dépréoccupe de nous-mêmes. Peut-être aussi parce qu'elle nous dépréoccupe, je dirais, des conséquences de ce que nous faisons. Je le fais quand même. Est-ce que ça réussira ou est-ce que ça ne réussira pas? Ce n'est pas le problème. Peu importe que je réussisse ou que je ne réussisse pas, j'y vais. Parce que je ne suis pas si important que cela. Et ma vie, ce n'est pas une sorte de chef-d'œuvre que je dois arriver à perfectionner par l'ouvrage de mes propres forces. Mais ma vie, c'est simplement quelque chose que je lance dans un projet qui me dépasse. Il faut avoir du courage pour se lancer dans quelque chose qui est plus grand que nous, de se lancer dans quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Et je crois que la foi a quelque chose de cet ordre-là qui nous libère justement et nous permet d'aller bien plus loin que ce que nous aurions pensé être capables de faire. Donc on met sa confiance pas simplement en soi, mais aussi en Dieu. Et donc, peu importe, je dirais que les choses réussissent ou pas. Ça, c'est aussi un des passages très importants de l'Ecclésiaste. Quand l'Ecclésiaste dit « jette ton pain à la surface des eaux et jette ta semence dans le champ », ne te demande pas si ce sera utile ou pas, si ça va grandir, si ça va pousser ou pas, ce n'est pas la question. Fais les choses avec simplement conviction, et avec foi et confiance, justement. Déplacer les montagnes, a priori, c'est ce qui semble impossible, Mais justement, je ne suis pas seul. Et il y a, comme le dit Marie dans le Magnificat, il y a l'Éternel qui peut faire pour moi de grandes choses. Maintenant, on peut aller un petit peu au-delà de cette lecture et se dire, mais finalement, puisque nous parlons de montagne, de quelle montagne parle-t-on? Et là, nous pouvons trouver, je dirais, d'autres significations à cette affirmation du Christ, qui est que nous pouvons transporter les montagnes dans la mer. Ces autres affirmations ne sont pas contraires à celles que je viens de dire, elles les complètent en quelque sorte. Si l'on est dans l'imagerie biblique, a priori, j'aurais tendance à dire que les montagnes, eh bien, c'est le lieu de la révélation de Dieu. C'est en effet sur les montagnes que Dieu se révèle, sur le mont Sinaï, c'est sur les montagnes que Jésus fait son sermon sur la montagne, c'est là qu'il est transfiguré, etc. Et donc la montagne, c'est le lieu de la révélation divine. Et il y a là aussi une promesse du Christ de dire, si vous aviez la foi, eh bien cette montagne lumineuse de la présence de Dieu, vous pourriez la trouver même au plus profond de la mer. Or la mer, cela nous le savons aussi pour la Bible, c'est le lieu de l'épreuve, c'est le lieu de la mort, et c'est l'endroit où il n'y a pas de vie possible. Eh bien il y a aussi cela dans cette folie de la prédication, de dire, la vie, si vous avez la foi en Dieu, vous pourrez la trouver partout, et même au plus profond de la mort, même au plus profond de la mer, même au plus profond de l'épreuve, eh bien vous pourrez trouver là une montagne lumineuse qui vous apporte une parole de vie. Oui, c'est vrai, humainement cela semble impossible, mais au niveau de la foi, je peux trouver une étincelle de lumière, même au plus profond de la nuit. C'est cela, peut-être, avoir la foi. C'est vouloir la vie, même dans la mort. C'est croire à la lumière, même dans la nuit. C'est croire que ce que le monde nous donne à voir n'est pas la totalité de la réalité, mais qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est un peu caché et que l'on peut découvrir. Mais là encore, je n'ai pas dit le dernier mot de la montagne. Parce que, en réfléchissant encore un peu plus, je me suis dit, mais finalement, il y a aussi dans l'Évangile des montagnes négatives. Et par exemple, dans ce célèbre passage d'Ésaïe 40, quand le prophète dit « Que toute montagne soit abaissée, que toute colline soit arasée pour préparer les chemins du Seigneur. » Là, les montagnes deviennent des choses négatives, des obstacles entre Dieu et nous, des obstacles entre nous et la vie, entre nous et le bonheur. Et il faut que ces montagnes d'absurdité, ces montagnes d'égoïsme, ces montagnes d'indifférence, ces montagnes d'attachement trompeur et pervers, il faut que nous arrivions à les araser pour laisser le passage à Dieu, c'est-à-dire à la vie, à l'espérance, à la joie, à la paix et à l'amour. Mais ça n'est pas facile. Mais peut-être justement que la foi en Dieu est aussi quelque chose qui peut nous permettre de jeter toutes ces montagnes absurdes au fond de la mer, de les jeter, de les rendre au chaos, de les jeter à la poubelle en quelque sorte, de les jeter dans l'abîme pour qu'il n'en reste rien. Alors il y a certainement là un travail de purification à faire dans sa vie, parce qu'on ne peut pas tout garder. On ne peut pas à la fois garder son ancienne vie, ses anciens attachements et son mauvais vouloir et essayer de plaquer dessus une vie nouvelle. Il y a dans la foi quelque chose de l'ordre du radical, où il faut savoir jeter à la mer comme un ballon qui jette du lest pour pouvoir s'élever. Il y a des choses qu'il faut jeter, des choses dont il faut se débarrasser et il faut faire un petit peu de place nette en quelque sorte, pour pouvoir accéder à une vie nouvelle. Et donc cette foi en Dieu qui nous permet de réaliser de grandes choses, elle demande aussi de se débarrasser de son égoïsme, de se débarrasser de son esprit étriqué, de se débarrasser de ses fausses croyances et de ses faux attachements, de se débarrasser de toutes ces montagnes d'absurdité. Le Christ dit lui-même, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon ça emporte tout, il faut des outres neuves. Et donc, cette foi en Dieu, ce n'est pas simplement une sorte de croyance dans l'utopie. Il y a aussi tout un travail personnel à faire pour laisser de la place à Dieu et pour qu'il puisse venir prendre, sa place dans notre propre existence. Cela, c'est vrai d'un point de vue, psychologique, comme celui que je viens d'évoquer. mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines, dans le domaine de la religion. Et c'est sans doute là le lien avec le texte qui précède, où Jésus purifie le temple et où Jésus débarrasse le temple de tout ce qui l'encombrait et le rendait faux. Ça, c'est une attitude qui a été très chère à la Réforme, de dire à un moment donné, il faut faire un peu de ménage, en quelque sorte, parce que tout cela devient trop encombré et ne laisse plus la place à l'essentiel. Eh bien, ce travail, nous avons tous, chacun à le faire et à le refaire sans cesse, d'arriver même au niveau de notre foi, de la débarrasser, je dirais, des croyances stupides, de la débarrasser des idéologies qui n'amènent pas à grand-chose, de la débarrasser de la superstition qui forcément s'y s'en mêle. Il faut jeter tout cela à la mer, se débarrasser de la croyance que les rites, que la pratique purement religieuse aurait une importance ultime, pour se recentrer sur l'essentiel qui est la foi en Dieu. Même sans aller jusque-là, je dirais, on peut dire que la montagne, peut-être est-ce la religiosité purement humaine, effectivement, et qu'il faut se recentrer, vous disais-je, sur l'essentiel, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu, croire dans ce qu'il est, croire dans l'amour, dans le pardon, dans la paix, dans la vie et dans la joie. Et c'est cela, se débarrasser de toutes ces montagnes qui sont peut-être l'image, effectivement, de la croyance, je dirais, purement humaine. Alors, parce que c'est sur les montagnes aussi que l'on dressait les hauts lieux, c'est sur les montagnes autrefois que l'on mettait les autels pour faire les holocaustes. La montagne était aussi tous les lieux des pratiques. C'est là qu'on a construit le temple de Jérusalem. Et là encore, Jésus dit, mais de ce temple, il ne restera rien. Et dans la Jérusalem céleste, il n'y aura pas de temple, parce que la pratique elle-même sera devenue secondaire par rapport à la démarche plus fondamentale qui est de se recentrer sur Dieu lui-même et sur ce qu'il représente. Alors Jésus purifie le temple, il le débarrasse de ses rites absurdes pour dire l'important, c'est la prière. Et de même, il critique le figuier, l'image d'une foi qui se pare de belles feuilles, mais qui finalement ne produit aucun fruit. L'image de celui qui se dit, vous voyez comme je suis religieux et comme j'étudie bien la Bible, mais qui ne donne aucun fruit aux autres. Et celui-là, eh bien, il le dessèche. Ce n'est pas une punition infantile, mais il le dessèche parce que c'est une bonne chose de dessécher les figuiers stériles qu'il y a en nous. Il y a en nous trop d'arbres pleins de feuilles qui prennent la place des bons arbres fruitiers. Et il faut les dessécher pour laisser la place aux autres. Il faut s'en débarrasser. Si ton bras, dit Jésus ailleurs, est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi d'entrer manchot dans le royaume de Dieu que de ne pas y entrer du tout. Et puis peut-être également que se débarrasser de ces montagnes, ce travail de purification qui nous permet de nous recentrer sur notre but ultime, sur ce en quoi nous croyons, sur ce qu'il y a au plus profond de notre être et qui oriente toute notre existence, se recentrer sur l'âme, sur le squelette fondamental de notre être et de notre conviction dans la foi dans l'Évangile, c'est peut-être aussi de se débarrasser de ces montagnes qu'il y a autour de nous et qui parfois obscurcissent l'horizon, se débarrasser de ces montagnes qui font que l'on est incapable de voir plus loin que le bout de son nez. Avoir foi en Dieu, c'est croire dans le possible, mais c'est croire aussi dans des horizons infinis. Avoir foi en Dieu, c'est voir loin, c'est voir au-delà de tout ce qui nous arrive, c'est voir au-delà du bout de nos pieds et de notre propre nombril. Il y a dans toute démarche spirituelle cette ouverture dont je parlais qui permet de dégager l'espace de sa vie, qui permet de dégager peut-être son être de cet égoïsme qui encombre tout, de le dégager de ses discours sur le possible ou sur l'impossible, de le dégager de tous ces déterminismes humains, de le dégager de ses jugements a priori sur les autres, sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, et aussi sur nous-mêmes, pour arriver à trouver une sorte de liberté extraordinaire qui fait que nous pouvons être au-delà de ce que nous pouvons nous-mêmes faire ou ne pas faire. Bien sûr, Dieu n'est pas une baguette magique qui va donner tout ce que l'on demande par la prière, mais néanmoins, il y a en Dieu une puissance extraordinaire qui fait qu'avec lui, tout est possible. Tout est possible pour celui qui croit en Dieu, c'est-à-dire celui qui croit dans l'amour, dans la paix, dans la vie, dans la joie, dans la lumière, dans le pardon et dans la possibilité d'une vie nouvelle en toute chose, d'une vie qui nous conduit jusque dans, je dirais, dans l'éternité, dans l'invisible et dans l'absolu. Amen.